Merci beaucoup. Moi, il me vient de considérer l'ensemble de l'humanité, des frères et sœurs, comme des miroirs. Comme des miroirs. Et ça va bien avec le fait que nous sommes un. C'est-à-dire que je regarde, je me regarde moi-même. Qui que je juge, je me juge moi-même. À qui que je m'oppose, c'est à moi que je m'oppose. C'est-à-dire que je crée la guerre en moi. Hein. Et donc moi, j'appelle ça l'égoïsme positif, ce dont Élodie parlait quand elle dit qu'un bon secouriste doit d'abord se secourir lui-même pour pouvoir aider les autres. Ce qui semble être de toute logique. Dans un avion, on dit à la maman, mettez votre gilet de sauvetage, vous, et ensuite occupez-vous de vos enfants. Hein? Parce que c'est l'ordre dans lequel les choses peuvent aller logiquement. Et il y a une phrase qui m'aide beaucoup, moi, c'est la meilleure manière d'aider quelqu'un, c'est de lui montrer l'exemple d'une personne rayonnante. Alors, c'est quoi lui montrer l'exemple? C'est-à-dire lui présenter le miroir qui reflète sa propre lumière. Quand il voit une personne rayonnante, prenez quelqu'un de déprimé. Il y a deux possibilités. Soit je l'accueille, je n'oublie pas qui il est, je n'oublie pas sa lumière, ou soit je l'enfonce un petit peu plus dans sa déprime. Comment il va réagir si je l'enfonce dans sa déprime? Bah, en se contractant encore un peu plus, hein, en rentrant encore un peu plus dans la croyance, en la séparation. Et comment il va réagir si je lui envoie de l'amour? Eh ben, il y a une chance pour que, quelle que soit la façon dont je manifeste l'amour, l'amour est reçu, hein, même s'il dit rien. Quelqu'un qui est déprimé, c'est quelqu'un qui appelle l'amour. Et la seule réponse en face de quelqu'un qui souffre, psychologiquement ou physiquement, c'est l'amour, puisque ces souffrances-là sont un appel à l'amour. Donc ça, c'est évident que quand j'envoie de l'amour, je lui montre un miroir de ce qu'il est vraiment. C'est ça qui aide. Ce qui aide, c'est qu'une personne qui est mal, qui souffre, se rappelle qui elle est. C'est-à-dire que elle se souvient qu'elle a oublié qui elle est. C'est une phrase un peu bizarre ce que je viens de dire. Elle se souvient qu'elle a oublié. Et moi, c'est une phrase qui m'aide beaucoup en moi quand j'ai du mal à aborder une situation qui implique une personne. Ce qui m'aide à dénouer la pelote, c'est que je n'oublie pas qui est mon frère. C'est ça qui m'aide. Que je n'oublie pas que c'est le Fils de Dieu qui joue à se croire limité, hein, qui est en train de me tendre des pièges ou des opportunités de choisir l'amour ou de choisir autre chose. Alors, moi, j'ai tout à l'heure, en vous entendant parler, j'ai trouvé le nom de la pièce de théâtre que nous jouons tous collectivement, et il m'est venu plutôt que je l'ai trouvé, et ça serait Retour à Dieu. Retour à Dieu, acte 1, acte 2, acte final, et nous retournerons à Dieu ensemble, forcément, puisque nous sommes un. On ne peut pas se morceler pour revenir à Dieu. Alors, quand on dit un maître éveillé ne voit que des éveillés, il ne faut pas confondre les niveaux, parce que il y a le niveau de la séparation, où nous pensons qu'il y a 6 milliards 800 millions de personnes différentes. Il y a le niveau de l'esprit, où tout est un. Hein. Et à ce niveau-là, c'est à ce niveau-là que cette phrase est prononcée. Un maître éveillé ne voit que des éveillés, parce que il suffit que je change mon esprit et que je donne allégeance complètement à la vérité pour que toute l'humanité soit là-dedans, puisque je suis cet esprit-là. Hein. C'est pas le niveau, c'est pas à ce niveau-là de la matière que les choses se règlent, hein, puisque en vérité, la matière, c'est le monde que je vois, c'est juste une idée dans mon esprit. Hein. Bien sûr. Lorsque nous allons travailler le matin, c'est un peu difficile à se représenter que c'est une idée qui est en mouvement. Hein. Mais en vérité, c'est ça. Donc je me rappelle qui je suis tout le temps. Et quand je l'oublie, je me dis, ah ben oui, j'ai oublié, encore une fois, tiens, je me suis encore fait attraper. J'ai oublié qui je suis. Hein. Et j'ai oublié, quand quelqu'un m'énerve, j'ai oublié aussi sa lumière, j'ai oublié qui il est. J'ai oublié que ça ne se passe pas. On pourra jamais assez dire que la séparation ne s'est pas passée, puisque c'est une idée qui n'a aucun fondement, puisque les choses sont toujours de toute éternité ce qu'elles sont. Donc, ça a traversé mon esprit divin un milliardième de seconde, et je suis la pièce qui se joue a déjà eu son épilogue depuis longtemps. Hein, et c'était ce que j'ai lu au tout début. Le miracle là, c'est de voir la vérité alors que je voyais, je me convainquais que l'illusion était la vérité, est la vérité. Alors à ce propos, il me revient quelque chose que j'ai vécu d'assez extraordinaire. Ça a eu des implications après, mais c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. J'étais en train de dormir. J'avais une image devant les yeux de mon rêve. Dans mon rêve, je me suis dit cette chose bizarre. Je sais que je ne rêve pas, donc je vais ouvrir les yeux pour être sûr. Et à ce moment-là, dans le rêve, mais en vérité dans la réalité, j'ai ouvert les yeux. J'ai ouvert les yeux en plein milieu du rêve, alors que j'avais une image devant les yeux. Et qu'est-ce que j'ai vu ? Que l'image de ma chambre a remplacé en une seconde l'image de mon rêve. Et ça m'est jamais arrivé de ma vie, ça. C'est-à-dire, d'habitude, le rêve se termine, ou il y a des états de conscience qui changent, qui font que je me réveille, progressivement, je peux me rappeler d'un rêve. Mais là, j'ai vu basculer une image avec une autre image. Et cette image, contrairement à ce que je disais dans mon rêve, c'était l'image de ma chambre, c'est-à-dire ma perception de la réalité actuelle. Alors, ça a été très porteur de sens après, hein, parce qu'au début, je ne savais pas quoi en penser. J'ai pas repris le rêve. Hein, je me suis rendormi, mais l'épisode est resté très très marqué dans ma mémoire, parce que c'était impressionnant à vivre. D'abord, ce que je me suis dit, c'est cette chose effarante, c'est mes yeux sont des projecteurs et non pas des récepteurs. Je peux projeter le rêve et l'instant d'après, je projette ma chambre. Parce que ça se passe sur le même écran, ces deux choses-là. Et c'est donc une projection. Et c'est ce que nous disons hein, dans un cours en miracle. Nous voulons croire à l'illusion tellement, avec une puissance tellement forte, que nous projetons avec nos yeux tout ce que nous voyons. Que nous le projetons pour bien signifier que ça se passe. Hein. Mais qui projette hein. Qu'est-ce qui se passe? L'image de mon rêve, l'image d'avant le basculement, elle était où? Elle n'était pas dans ma chambre, elle était dans mon esprit. L'image de ma chambre, elle était où? Dans mon esprit aussi. Hein? Parce que je veux, et le vœu, il est important, je veux croire que c'est réel. Alors je m'en donne les moyens. Je m'en donne les moyens. Ce rêve, il m'a fait comprendre que entre rêve nocturne ou rêve diurne, il n'y a pas de différence. C'est une image qui en remplace une autre. Et que je pourrais... je mets le conditionnel, faire la même chose deux jours. C'est-à-dire arrêter de croire que les images qui sont devant moi représentent la réalité. C'est très impressionnant, hein, ce petit passage minuscule de ce rêve. Mais je vais citer un exemple tiré de la physique quantique que je cite assez souvent dans ces réunions. c'est, on dit, supposer tout ce qui arrive à notre cerveau et qui est interprété comme étant réel est le fruit d'impulsions électriques qui sont véhiculées par les sens et les nerfs, hein, qui arrivent au cerveau, comme dans Matrix. Hein. Supposons que nous puissions construire un ordinateur très très puissant qui génère ces mêmes impulsions. Exactement. On aurait une vision parfaite de la réalité, alors que notre esprit, notre cerveau est branché à un ordinateur dans sa totalité. Hein. Et les scientifiques de la physique quantique disent, dans ce cas, le cerveau peut être hors du corps, on peut le mettre dans une cuve, alimenté avec les liquides, et puis le brancher, simplement le brancher à un ordinateur. Et là, il n'y aurait pas de différence du tout, parce que les stimuli qui arrivent au cerveau sont les mêmes, exactement les mêmes. Et la question qui vient après, posée par les savants, c'est de dire, qu'est-ce qui nous dit que actuellement notre cerveau n'est pas dans une cuve? C'est Matrix à 100%. Mais en vérité, ne sous-estimons pas la puissance de l'esprit divin. Dans l'esprit divin, tout est possible. Je veux croire à un monde, je m'en donne les moyens. Je veux croire que c'est bleu, je m'en donne les moyens. Je veux croire que c'est solide, je m'en donne les moyens. Je veux croire que c'est réel, je m'en donne les moyens. Voilà. Donc c'est ce rêve nocturne-là, il a été extraordinaire. Il m'a vraiment marqué très fort. Très fort parce que il n'y a pas eu de pause entre les deux images. C'était dans la continuité. C'était un flip, un basculement. Et je me dis, si c'est possible dans le rêve, c'est possible tout le temps, quoi. Donc, nos yeux nous mentent, même si ça paraît difficile à croire pour beaucoup. Hein, nos yeux nous mentent, et ce que nous voyons, c'est ce que nous voulons voir, parce que nous y croyons. Hein. C'est pas comme Saint Thomas qui croit ce qu'il voit, c'est nous, on voit ce qu'on croit. Hein, c'est l'inverse. Mais, bien sûr, dans notre expérience humaine, c'est très difficile à croire.